て。
Je veux faire peur à personne. Mais on se sent pas bien ici. Regarde ma main.
Oh.
Regarde la peau qui a été arrachée. Oh. Regarde, Fanny, la chair est à vif. J'allais servir le café du matin à Monseigneur et quand j'ai touché la poignée de la porte, il y a la peau qui est restée collée dessus. Et puis après, elle s'est déchirée. Et alors, j'ai entendu un grand éclat de rire derrière moi. Je me suis retournée. Mais il n'y avait personne. J'ai quand même pitié de celui qui... Oh, mais je parle trop, moi je ferais mieux de me taire.
Spécial Vive les filles et leurs talents ce soir. Nous recevons Julie Deliquet pour son Fanny Alexandre, l'adaptation du Bergman, qui commence dès demain à la Comédie Française. Et nous recevrons en fin d'émission Judith Davis pour son film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ». Vive donc le talent des filles, mais nous allons commencer quand même par une bande de garçons qui s'est illustrée dans l'histoire et que nous aimons toujours entendre et réentendre.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Face before, nobody was really sure if he was on the house alone. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. We'll be right back.
Croyez-vous aux fantômes, Julie Deliquet ?
Non. Non, je ne crois pas aux fantômes, mais je crois... Je crois à toutes les histoires qui ont une vie avant nous. Je suis une grande chineuse, j'aime la récupération, j'aime l'idée d'une dramaturgie en poupée russe et que les choses se répondent. Donc, quelque part, les fantômes résonnent, même si je n'ai pas du tout ni mysticisme, ni rapport à l'enfance plus naïve ou plus mélancolique. Oui, je suis plutôt une grande admiratrice et ça me donne beaucoup de vie et d'espoir d'imaginer que les choses ont eu une vie avant nous et qu'elles en auront une après nous.
Enfant, vous rêviez votre vie ?
Oui, beaucoup. Hein. Tous les vendredis, j'avais un projet de réaménagement de ma chambre pour inventer une nouvelle histoire dans le week-end.
À quel âge avez-vous commencé à aller au théâtre ?
Tard. J'ai commencé à faire du théâtre avant d'aller au théâtre. J'ai fait du théâtre petite fille le mercredi après-midi dans une MJC à partir de l'âge de 9-10 ans. Et je suis d'abord allée beaucoup au cinéma parce que j'ai fait un bac cinéma. Donc j'ai été plutôt une grande spectatrice de cinéma. Et j'ai commencé à aller au théâtre à partir du lycée quand je faisais des voyages à Paris.
Que veut dire mettre en scène pour vous, Julie Deliquet ?
Mettre en scène, longtemps j'ai eu du mal avec ce mot, puisque ce qui me plaisait c'était surtout voir les acteurs. Donc mettre en scène, l'idée de les diriger ou de leur dire quoi faire m'excitait pas du tout. Et j'ai su que mettre en scène ça pouvait être aussi une autre façon de considérer ce mot et de les regarder agir, improviser en répétition et de garder cette liberté-là en représentation. Et du coup, mettre en scène de façon peut-être plus invisible, plus sourde, mais pour créer une liberté et aussi une sensation un peu d'infini que la chose mute d'un soir à l'autre.
Vous incarnez une génération qui a décidé que le théâtre, c'était quelque chose d'éminemment collectif et que la définition du metteur en scène, ce n'était pas celui ou celle qui détenait la vérité et qui administrait cette vérité à la troupe d'acteurs, mais que tout devait être réuni mentalement, psychiquement et artistiquement pour ensuite être déposé et transmis et donné au public sur un plateau de théâtre. C'est ainsi que vous avez fait partie de cette génération qui avait inventé le collectif. Votre collectif, vous l'avez nommé in vitro. In vitro, c'est un mot fort. Comment ce mot est-il arrivé à l'intérieur de votre pratique de théâtre ?
Il est arrivé parce que je me suis rendu compte que, justement, fixer les choses, les mettre en scène, décider de déplacements ou de choses un peu définitifs, ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je reconsidère la forme de théâtre qui me plaisait. Et en fait, c'était quand j'observais mes acteurs sur des temps d'improvisation très longs, finalement, essayer de recapter la vie. Alors, je savais que tout ça était du théâtre, mais quand même, quand je les voyais improviser 5, 6, 7 heures d'affilée et que je me baladais au milieu d'eux, je me disais c'est dingue, c'est comme si on avait reconstitué la vie in vitro, c'est-à-dire je sais bien que tout ça est du théâtre, il y a des ficelles, on avait une dramaturgie des personnages, mais je n'en voyais plus les traceurs et j'étais fascinée de ça et je me suis dit ben, cette fascination que j'ai en répétition, il faut juste que j'essaye de la faire perdurer, bien sûr que la chose va muter, mais pour qu'un public puisse assister aussi à cette reconstitution-là de la vie. Et pour ça, on a le mot collectif, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous la même fonction. Moi, je reste metteur en scène. J'ai une place définie, les acteurs ont une place définie. J'estime que je ne suis plus en haut d'une aire pyramidale, je suis plutôt au milieu d'eux et on travaille ensemble.
Je vous propose d'écouter quelqu'un qui, dans la profession, compte beaucoup, à la fois pour son engagement, pour sa redéfinition du théâtre, pour la manière dont elle offre le théâtre comme partage, transmission et peut-être même élévation. Je ne sais pas si elle accepterait ce terme. Je veux parler de Ariane, la grande Ariane, Ariane Mouchkine, qui va parler de sa définition du théâtre. Écoutez-la.
Écoutez, moi je crois qu'en ce moment, particulièrement, nous sommes tous si inquiets de ce qui se passe dans le monde, dans notre pays. Moi je pense que tout groupe, voilà, toute tentative de faire une œuvre, quelle qu'elle soit, ensemble, hein, que ce soit du théâtre, de l'art bien sûr, mais même, je pense que quand des ouvriers se mettent ensemble pour reprendre leur usine, quand une bande de médecins se met ensemble pour chercher quelque chose, voilà. Je pense que c'est ça, la fabrique d'humanité. C'est de retrouver la confiance les uns envers les autres pour faire des choses ensemble. Et ce qui est parfois, il faut dire, très très terrifiant, c'est quand je pense qu'il y a une... je vais parler de la France, je ne connais pas. Mais je pense qu'en France, il y a une goguenardise médiatique, en tout cas, très dangereuse, hein, qui est de toujours ramener les belles expériences à « oui, mais de toute façon, demain, ça va se casser la gueule ». Au fond, je ne vais pas dire « peu importe que ça se casse la gueule », mais au fond, oui, mais ça aura existé.
Alors, le théâtre fabrique d'humanité aussi, pour vous, Julie Deliquet. Ariane Mouchkine vient de dire qu'effectivement, le théâtre, c'est aussi la transmission d'une expérience, du réel. Et c'est ce que vous faites depuis longtemps, malgré votre jeune âge.
Oui, disons que je suis évidemment fascinée par la fiction, puisque je m'exprime à travers elle.
Mais la pas
fiction,
seulement.
Non, la fiction ne m'intéresse que si elle est teintée de réel à la base, et que si tout mon trajet, moi, de metteur en scène avec mes acteurs, est de partir de ce réel pour tendre vers cette fiction, pour que la fiction soit quand même teintée de réel et du monde qui nous entoure, et que la notion de catharsis est de face à face avec le spectateur et notre époque. Et comme le dit Ariane Mouchkine, un groupe, c'est pour ça que moi je mets beaucoup d'acteurs sur un plateau, un groupe face à un autre groupe de spectateurs, et finalement une micro-société face à une micro-société, et qu'on se pose les questions ensemble, même si c'est sous couvert de personnages et de fiction, c'est quand même un acte de résistance, et puis c'est ça qui me fait faire du théâtre tous les jours.
Alors vous avez fait du théâtre de répertoire, comme on dit, en prenant des auteurs contemporains et des auteurs un peu plus ancien, même si Brecht est toujours notre contemporain, que vous avez monté. Vous avez monté aussi Jean-Luc Lagarce. Mais vous avez fait une expérience absolument magnifique. J'ai eu la chance de la voir à travers une trilogie où vous avez mis en scène votre propre histoire familiale. Et dans cette confession qui était à la fois autobiographique, mais aussi éminemment politique et artistique, il y avait une offrande de votre vision de la vie aux générations passées. Donc, est-ce que pour vous, Julie Deliquet, le théâtre, c'est aussi une transmission de génération et aussi une interrogation sur la vie que nous menons ?
Oui, complètement. Après, chacun décide de la prendre de front ou pas. Moi, j'ai besoin, par exemple, d'être sous couvert de fiction, ne serait-ce que pour m'amuser. Donc, quand j'ai fait effectivement cette trilogie sur l'héritage de mai 68, on s'est amusé, nous, plutôt à interpréter la génération 68-arde, c'est-à-dire celle de nos parents, plutôt que de parler directement de nous. C'était une manière pudique d'interroger notre époque, mais avec tendresse, avec humour, avec férocité, parfois. Mais c'était toujours, j'ai amené tous mes acteurs moi, dans la maison de campagne de chez mes parents, en leur disant ça va partir de là. Oui, d'accord, le début est mon histoire, mais la fiction ne sera pas du tout mon histoire. Et on se détache de l'idée de la pure autobiographie, mais on va dire que j'avais besoin de raconter cette chose-là, mais j'avais besoin d'être dépossédée du geste artistique par les acteurs, par l'histoire qu'on allait construire, et par le fait aussi de s'en amuser. La notion ludique est très importante pour moi. Par contre, elle part toujours de quelque chose, évidemment, de plus profond, et puis de quelque chose de nécessaire à raconter, qui n'est pas que mon histoire, qui est comment une génération a succédé à une autre et a déjà donné naissance à celle qui aura 20 ans dans 10 ans.
Vous avez moins de 40 ans aujourd'hui, Julie Deliquet. On vous donne, entre guillemets, la Comédie française pour y faire une adaptation magnifique de Fanny Alexandre d'après Bergman, on en reparlera tout à l'heure. Vous faites partie d'une génération qui a pris les rênes, et c'est heureux, parce que dans cette génération, vous réinventez une définition du théâtre qui fait que le théâtre devient quasi nécessité, relation à autrui, communauté qui se crée à l'intérieur du public, échange entre le plateau, où jouent les comédiens, et puis le théâtre où nous, public, nous sommes là dans le noir à écouter ce qui se raconte. Ça peut être de la fiction, ça peut être des expériences de la vie. Je vous propose d'écouter aussi un metteur en scène qui fait partie de la même génération que vous et qui a aussi une définition incandescente du théâtre. Il s'appelle Sylvain Creusevaux et je vous propose de l'écouter.
Bah, c'est essayer de construire des moments, des mouvements qui reproduisent artificiellement du vivant, quoi. Du jeu, c'est comme un petit écart ou un grand écart avec ce qu'on peut ressentir, vivre en dehors des théâtres. On essaye de reconstruire, de réfléchir, de ressentir, de représenter des moments de la vie en commun des hommes, quoi. Ben oui, ben c'est-à-dire qu'au départ, on arrive... C'est un endroit, c'est un espace, c'est un lieu. Et donc, on arrive dans ce lieu avec ce qu'on traîne au dehors, et c'est ce qu'on met sur la table. Et donc, on commence à tripatouiller ce qu'il y a dans le sac. Et souvent, oui, c'est venu d'interrogations historiques, politiques. Pendant 10-15 ans, c'est ça qui nous a intéressés. On est allé jusque dans les impasses, les apories que peut faire naître au théâtre ce genre de matériaux, c'est-à-dire, et qui donne parfois des énoncés étranges ou la qualification de théâtre politique. On pourrait y parler des heures, c'est-à-dire, c'est des périodes. Alors à un moment donné, voilà, on disait de nous qu'on politisait les matériaux, et puis peut-être on s'est aperçu, je me suis aperçu que c'est pas forcément un grand service à rendre au théâtre que de le surpolitiser, parce qu'il est, comme il est une hétérotopie, comme il est un autre lieu, il faut qu'il y ait un écart, une transformation de ce qui sert comme matériau vivace à sa reproduction artificielle, à son art. Que parfois, faire simplement une translation positive ou de surface, alors ça l'appauvrit.
Alors Sylvain Creusevaux a commencé à se faire connaître par son exploration de la Révolution française. Mais il a continué à travailler aussi sur des textes contemporains. Il va reprendre une analyse de Marx. Il s'est promené beaucoup dans Dostoïevski. Il vient de dire que le théâtre, c'est rendre artificiellement le vivant. Et j'ai l'impression que vous n'en êtes pas très loin de cette définition, vous, Julie Deliquet.
Oui, complètement. L'idée du vivant, en tout cas de l'art vivant, moi qui ai pu aussi faire des études de cinéma, qui suis une très grande amatrice de films, je me dis que le théâtre, des fois, je peux m'y reconnaître en tant que spectatrice quand l'art vivant est mis en avant. Et puis des fois, je peux moins m'y reconnaître. Et ce que je trouve fou au théâtre, c'est que l'acteur est tout aussi mortel que le spectateur qui est en face de lui. Et ça, je trouve que ce soit il y a 200 ans ou dans 200 ans, ça perdure. Et ce geste-là, c'est une prise de risque incroyable et une catharsis, une mise en miroir folle. Et je me dis, j'ai envie de pousser, moi, d'exacerber ce geste-là, de ne pas tricher, d'être dans l'anti-héros. C'est-à-dire que je trouve que de voir un acteur jouer avec les qualités et les défauts de son personnage et de les mettre à nu, je trouve qu'il y a quelque chose de bouleversant, parce que ce moment-là, on le partage à la seconde près, et que si quelqu'un hurle dans la salle pour arrêter la représentation, elle s'arrêtera. Et du coup, ce frisson de la vie qu'on peut ressentir dans une vie de tous les jours quand il y a des événements marquants, et ces événements marquants là, on les met en boîte et on tente chaque soir ou à chaque répétition, parce que pour moi c'est le même travail, de le capter, de le reconstituer. Et c'est pas une prise de cinéma, c'est-à-dire quand on l'a une fois, il faut y retourner, il faut se réinterroger, et que ce trajet là il est complexe, et moi je le trouve beaucoup par l'autre, c'est-à-dire que je dis souvent à mes acteurs qu'on est interdépendants les uns des autres et qu'ensemble il peut rien nous arriver, mais sans les autres il se passera rien non plus. Donc moi j'accepte chaque soir de regarder mes acteurs inventer, réinventer la mise en scène qui n'est pas complètement arrêtée, et de voir que l'acteur va trouver sa réplique et va trouver son énergie dans la réplique d'avant, et c'est-à-dire dans les yeux de son partenaire. Et ça, c'est une alchimie, c'est comme si on mettait des êtres en bouture et qu'on les regardait pousser ensemble. Alors ça fonctionne avec du travail, hein. Ça fonctionnerait pas qu'avec l'immédiateté et l'insolence qui va avec. Mais c'est quand même un endroit d'expérience, le théâtre. Si on sort d'un côté classique qui peut me plaire en tant que spectatrice, mais moi que je recherche pas en tant que metteur en scène, qui je trouve quand même est un endroit d'expression et de liberté assez unique.
Vous faites du théâtre, Julie Deliquet, qui ne fait pas théâtre. Je veux dire par là que vous ne voulez pas donner aux spectateurs la sensation que les comédiens récitent leurs textes et que ils tiennent un statut, ils occupent un personnage, ils occupent un plateau, etc. On a l'impression à chacune de vos mises en scène qu'il y a cette fragilité de travailler ensemble, d'être sur l'instant présent que nous partageons, nous spectateurs, avec celles et ceux qui sont sur le plateau. Et cette fragilité était déjà l'ossature de votre avant-dernier spectacle magistral, Oncle Vania de Tchekhov. Et je me demande si, dans la prise d'espace et la compréhension de ce que ça veut dire la troupe de la Comédie française, avec laquelle vous aviez déjà travaillé avec Oncle Vania, n'y avait-il pas le désir de continuer à travailler ensemble ?
Si, c'est sûr. Après, il fallait qu'il y ait un projet qui remette en laboratoire notre rencontre. Et pour Vania, ce qui était en laboratoire, c'est que j'étais face à des gens qui ne connaissaient pas mon travail et moi, je ne connaissais pas ces acteurs-là. Ce qui était vraiment une vraie expérience pour moi de mettre des mots sur le théâtre que je voulais chercher puisqu'on ne se connaissait pas.
Mais dites-moi, une jeune femme comme ça qui arrive devant une troupe de comédiens extrêmement expérimentés qui ont travaillé avec les plus grands metteurs en scène de la planète, elle se fait pas dévorer comme un petit chaperon rouge là ?
Non, parce que je crois que j'étais quand même assez solide en arrivant. J'avais beaucoup travaillé et puis je crois que j'ai un tel amour des répétitions et de chercher un théâtre qui me plaît moi que là-dessus je me faisais confiance sur ce que je cherchais et la radicalité du propos. Par contre, il fallait effectivement être radical et l'expliquer bien. Parce que bien évidemment qu'ils ne connaissaient pas ma méthode et qu'il fallait la trouver et peut-être même en trouver une nouvelle pour les amener au théâtre que je recherchais. L'expérience de revenir, c'était pas tant de retrouver ces acteurs-là, plus, parce que là ils sont 19 alors que sur Vania ils étaient 7. C'était aussi me confronter à une nouvelle esthétique. Parce qu'un théâtre à l'italienne, l'alternance, les
conditions... Oui, il faut préciser qu'Oncle Vania était à la Comédie Française au Théâtre du Vieux Colombier, alors que là vous venez de commencer... Place Richelieu.
Exactement. Et ça, c'était Richelieu. Voilà, ça c'était aussi une esthétique et une forme théâtrale que je connaissais pas du tout et une nouvelle expérience et d'avoir des acteurs qui ont l'habitude eux de cette salle-là, moi non, mais avec l'envie aussi de parler de cette salle directement puisqu'elle était nouvelle pour moi et de trouver un projet du coup qui allait parler de leur théâtre et de la troupe faisait que il y avait une réunion de circonstances qui m'ont mené à ce choix de Fanny Alexandre de Bergman.
Mais je vous propose d'écouter la voix de Ingmar Bergman, je rappelle, et ça vous avez raison de le souligner, que Bergman a mené parallèlement évidemment une carrière de metteur en scène de théâtre, de directeur de théâtre, de directeur de troupe, jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il n'arrêtait pas de souligner que pour lui, le rôle de metteur en scène de théâtre était beaucoup plus important que son rôle de cinéaste. Il était aussi écrivain, un grand écrivain. Et d'ailleurs, grâce à vous, moi, j'ai découvert que Fanny et Alexandre, avant d'être ce film magistral, était aussi un livre signé de lui. Mais je voudrais que nous écoutions la voix d'Ingmar Bergman, qui va dire ce que lui permet de faire un film dans sa vie artistique. C'est une archivina du 18 décembre 1984.
Ja, det har alltid varit film. Film har för mig alltid varit en,
le film a toujours été une fantastique occasion pour moi de faire éclater murs et plafonds, de déchirer la mince membrane de la réalité, d'atteindre à d'autres univers, de condenser événements et tensions.
Världar att förteta skeenden och spänningar. Jag tycker att
je trouve que le film est un médium inouï. Et je pense peut-être que nous ne trouvons qu'au début de son développement. Car il a tellement à voir avec nos propres rêves. Ce que le film a d'étonnant et de mystérieux à nos yeux, c'est qu'il dépasse l'intellect pour nous parler directement.
Det hemlighetsfulla och det märkliga med filmen, så som jag ser det, andra tycker det annorlunda, det är det att
il s'adresse directement à la conscience et à l'inconscience. Et toi, tu es presque sans défense. tu es livrée.
Et au fond, en voyant votre spectacle, Julie Deliquet, en écoutant Bergman, en ayant revu le film Fanny Alexandre avant d'aller voir votre spectacle, je me dis que vous réussissez à faire du théâtre et du cinéma en même temps.
Oui, c'est vrai que je me suis... même si on adaptait un film, un livre à la scène, je me suis posé plein de questions scéniques, bien évidemment, et notamment celle du théâtre, parce que le thème du théâtre est très présent dans Fanny Alexandre, donc je l'ai mis particulièrement à l'honneur pour la version scénique. Mais quand même, le montage de l'écriture, que ce soit dans le roman ou que ce soit dans le film ou la série télé, a été imaginé pour le cinéma. Même dans le roman, on sent que le scénario est pas loin et que c'est un futur scénario. Et que du coup, ce montage cinématographique, il me paraissait quand même nécessaire de le conserver et de trouver comment une scène allait être crochetée avec une autre et d'avoir comme ça une sensation de plan-séquence et de m'amuser en tout cas avec ces trois codes qui est le texte incroyable qui est présent du coup dans les dialogues dans le livre. Ce montage cinématographique et cet énorme, ce grand hommage à notre métier au théâtre.
Alors, votre spectacle se déroule en deux parties. Une première partie plutôt chaleureuse, l'atmosphère familiale des Hegdal. Une deuxième partie beaucoup plus tragique. Vous avez adapté, au sens le plus fort du terme, le scénario à la fois d'écriture et cinématographique de Bergman, puisque Fanny et Alexandre, vous en avez fait des adolescents, alors que la mélodie bergmanienne s'inscrit complètement et totalement dans l'enfance. Pourquoi ?
Pour deux raisons. Une première raison plus pragmatique qui fait que travailler avec des enfants au théâtre, c'est travailler avec de la figuration. C'est des enfants... pour les lois de la DAS qui alternent d'un soir à l'autre et qui ne peuvent pas être présents en répétition comme des acteurs professionnels. Donc, dramaturgiquement, Fanny et Alexandre sont tellement importants qu'il fallait bien évidemment qu'ils soient joués. Une deuxième raison, c'est que Bergman a choisi des enfants, et notamment dans le personnage d'Alexandre, un enfant, parce que c'est un vieux monsieur, quand même, c'est son film testamentaire, donc quand il travaille cette œuvre-là et qu'il s'y reconnaît dans l'enfance d'Alexandre. Alors, moi, je suis pas un vieux monsieur. Et j'avais la sensation que
pour... Je confirme.
J'avais la sensation que pour comprendre l'œuvre, il fallait que je trouve cette identification à Fanny Alexandre. Et je la trouvais beaucoup plus dans une jeunesse et dans les deux derniers pensionnaires qui rejoignent cette maison. Comme nous, on a rejoint il y a quelques années ces collectifs dont vous parliez au début. On rejoint les institutions et les théâtres nationaux, ce qui était quand même pas gagné. On était des bandes de trentenaires. Et cette nouvelle génération qui arrive et qui joue avec des Denis Podalydès, des Dominique Blanc, Elsa Le Poivre... Je trouvais que c'était... Je les voyais sous la table, des fois en répétition, comme Alexandre sous la table, regarder ses acteurs travailler, et à la fois avec tout le talent, toute l'insolence de leur âge, parce que du coup, on se sent quand même très vieux, à côté de Rebecca Marder et Jean Chevalier, qui sont vraiment tout jeunes. Je trouvais qu'on arrivait à avoir ce mélange de générations et à toucher à ce que veut raconter Bergman, tout en nous gardant une identification qui, pour moi, est très importante, parce qu'elle est inhérente à la thématique de Fanny Alexandre.
Il y a beaucoup de sujets qui nous parlent aujourd'hui, en 2019, dans votre mise en scène de Fanny Alexandre. Notamment la folie que peut provoquer la religion à l'intérieur d'une personnalité exaltée, le mépris de l'enfance, le saccage de la violence à l'intérieur d'une famille. Est-ce délibéré de votre part d'appuyer sur ces thématiques à l'intérieur de votre mise en scène, Julie Deliquet ?
Ce qui était important, c'est que je trouve que le film est violent, mais il est violent comme peut l'être un film, c'est-à-dire qu'avec peu de choses dans un film, on croit à tout. Cette violence, elle est très sourde, elle est très âpre. Et je me suis dit, tiens, comment la reconstituer au théâtre ? Parce qu'au théâtre, par exemple, voir un fantôme au cinéma, c'est bouleversant. Au théâtre, c'est la chose la plus normale du monde. La preuve, quand il répète Hamlet, il joue un spectre. C'est pareil, la violence au théâtre, pour avoir peur, pour avoir un sentiment de violence, obligatoirement, il faut monter un peu les curseurs pour pouvoir la ressentir et pour pouvoir sentir qu'elle est proche d'une violence qui nous habite et qui habille notre société. Donc, j'ai fait exprès de pousser aussi certaines scènes. Et puis, j'ai pas pu tout raconter. Donc, le fait aussi de dégraisser un petit peu l'œuvre fait aussi qu'on est plus à l'os et que les thèmes, du coup, sont âpres et radicaux, quoi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Julie Deliquet, c'est Johnny.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Qu'avez-vous de Tennessee en vous, Julie Deliquet? Et nous accueillons Judith Davis qui sort de la projection de son film, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre en studio. Je pense que ces deux filles-là ont beaucoup de choses à se dire. Mais d'abord, qu'avez-vous de Tennessee en vous?
Alors, de Tennessee, je ne sais pas, mais je ne sais pas. J'ai beaucoup pensé à Johnny pendant cette création.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de
sur,
Johnny.
C'était sur Edvard.
Il y a du sexy
j'avais envie,
Johnny.
Voilà, du sexy Johnny, du voyou Johnny. Donc, voilà, ça m'amusait de proposer ce choix-là.
Ben, c'est super comme choix. Donc, je disais en début d'émission, Judith Davis, pendant que vous étiez en train d'accompagner votre film qui est sorti la semaine dernière, je disais « Vive les filles !» C'est comme ça qu'on a commencé l'émission, parce que vous êtes de la même génération, vous avez commencé toutes les deux par le collectif dans le théâtre. Je me souviens de certains de vos spectacles, et puis voilà, un de vos spectacles issu d'un collectif devient un film qui démarre très très bien, qui est une comédie à la fois extrêmement drôle et extrêmement acide sur les gens de votre âge.
Bonjour déjà. Oui, c'est vrai, c'est un film qui s'appelle donc « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ».
Oui, mais moi j'avais vu une pièce de théâtre il y a quelques années qui s'intitulait « Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est Simon ».
Ouais, c'était « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ».
Voilà, c'était le « nous ».
C'était le « nous ».
Et maintenant, c'est le « me ».
Et maintenant, c'est un faux « je » parce que, effectivement, c'est un projet qui est une prolongation de ce spectacle que j'ai écrit, réalisé, dans lequel je joue. Donc, il y a un jeu comme ça, apparent, et ça a l'air très sur mes épaules. Mais effectivement, c'est indissociable de tout le travail de collectif que je mène avec l'avantage du doute depuis plus de 10 ans. Puisque beaucoup des questions que j'aborde dans le film, que ce soit l'héritage émotionnel et politique des années 68-70, que ce soit la question du travail et la question de la déshumanisation de notre société, parce que je pense que c'est un film là-dessus, même si évidemment le détour est par l'humour, le détour est par une quête politique d'une Angèle en colère qui essaie de changer les choses et qui bute comme ça contre le réel. Toutes ces questions-là, on les a traversées ensemble avec Mélanie Bestel, qui joue la sœur dans le film, avec Nadir Legrand, qui joue aussi dans le film, Simon Bacouche et Claire Dumas, qui sont tous les quatre les cofondateurs de l'Avantage du doute avec moi. Donc j'ai écrit sur mesure pour eux. Donc c'est là qu'on retrouve le « nous », entre autres, et avec cette chance incroyable de pouvoir mener un projet de cinéma que je porte sur mes épaules, avec des gens qui jouent tout le film tout le temps, en fait. Ils sont pas là pour jouer leur partition et leur personnage. Chacun sait ce qu'il raconte et ce que toute l'histoire et tout le film apporte en questionnement et en profondeur. Donc ça, c'est unique. Et j'inclus Malik Zidi et Mireille Perrier, qui sont pas du collectif, mais qui sont du collectif élargi, celui du film. Donc ça, c'est assez particulier de concevoir un projet de cinéma dans ce sens-là.
Alors, tout à l'heure, Julie Deliquet expliquait à quel point le collectif l'avait façonné, l'avait transformé, définissait sa pratique du théâtre. Vous aussi, vous venez du monde du théâtre, du collectif, du partage. Vous abordez des thématiques très proches qui sont celles de la transmission entre générations. Vous avez eu, je crois, d'ailleurs, toutes les deux, des parents assez militants, révolutionnaires, qui ont fait 68. Et puis, vous êtes toutes les deux des filles qui ont débarqué dans la société où c'était pas si évident parce que, comme l'expliquaient vos parents, de leur temps, c'était facile de trouver du boulot. Mais quand vous avez débarqué dans le monde du travail, et c'est d'ailleurs le premier tiers de votre film, Judith Davis, c'est de montrer l'expérience que vous avez sans doute vécue personnellement, d'arriver dans un monde du travail où personne ne vous attendait et vous recevez des baffes absolument sans arrêt. Que vous donne le collectif aujourd'hui et comment vous a-t-il aidé à faire ce premier film, Judith Davis ?
Oui, effectivement, on commence par une scène de licenciement assez musclée. Alors, j'ai eu l'immense chance de pas le vivre, mais tous mes copains et mes copines ont évidemment vécu cette façon de se faire vraiment remercier. Ou de pas renouveler son stage, enfin on connaît ça évidemment par cœur, ou de faire des photocopies alors qu'on est à bac plus 14 et qu'on n'en peut plus. Mais moi j'ai l'immense chance d'avoir voulu faire un collectif avant de vouloir faire du théâtre ou d'être actrice. En fait moi c'est vraiment ça que je voulais faire, parce que j'ai découvert les TG Stan à 17 ans et demi au théâtre de la Cité Internationale, et je me suis dit tiens, c'est ça que je veux faire. Et je savais pas ce qu'il y avait derrière, mais évidemment je les ai rencontrés et puis après j'ai réfléchi.
Alors il faut expliquer qui sont les TG Stan, donc c'est une troupe qui a réinventé une manière de faire du théâtre de manière collective.
Collectif flamand, exactement. Et ce qui est formidable, c'est la place de l'acteur. Je pense que Julie en parlait tout à l'heure, la responsabilité de l'acteur au présent de la représentation. Et du coup, ça fait qu'avec les quatre cofondateurs de l'Avantage du doute, il y avait vraiment cette envie d'être acteur dans un sens très fort. Et nous, il y a un pas de plus puisqu'on est des acteurs auteurs et on est tous les cinq auteurs. Alors, ce qui est intéressant et en même temps différent dans le projet de cinéma, c'est qu'au théâtre, on a vraiment à cœur de... On n'a pas de metteur en scène, on est tous metteurs en scène, on n'a pas de dramaturge, on est tous dramaturges. Et on écrit sous forme d'une enquête commune où on accumule de la matière première et ensuite chacun va écrire sa partie, c'est-à-dire son point de vue sur le thème et qui n'est pas forcément le même que l'autre parce qu'on est très différents et ça crée un conflit qui est l'essence même de ce qui va devenir la pièce. Mais on a à cœur de vraiment faire une écriture en montage et de toujours laisser les coutures apparentes pour que le spectateur trouve sa place. Et ça, ça nous plaît beaucoup. Mais effectivement, moi, j'ai fait un geste complètement différent au cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai réussi à dire « je » au cinéma. À aucun moment, je me suis dit « je vais monter une... ». Quand j'ai eu besoin d'aller plus loin avec cette histoire de transmission affective, culturelle, politique, ce nœud incroyable qui fait qu'aujourd'hui, dans notre génération, à la même famille, les parents ont grandi dans un monde. La géométrie de ce monde-là a basculé au début des années 90. Et en fait, ils ont des... voilà, c'est nos les parents, les enfants, dans la même cellule familiale, vivent un chamboulement politique immense. Et moi, j'en avais pas fini de raconter ce croisement-là entre l'intime et le politique.
Alors, c'est un film très joyeux, effervescent, qui donne la pêche, qui donne de l'énergie, parce que l'humour structure la tonalité de toutes les interventions qui sont éminemment politiques et citoyennes. Nous allons en écouter un extrait.
C'est marrant parce que Vincent, avant d'être mon patron, c'était mon prof. Et à l'école, il disait jamais « c'est le monde qui est comme ça ». Il disait toujours avec emphase « le monde, c'est nous qui le faisons ».
C'est vrai que vous n'avez pas de chance. Nous, à notre époque, c'était différent. À ton âge, on trouvait du boulot comme ça. Et puis, on était dans le nous. Ah, mais ça, tu peux pas comprendre. On mettait le tracteur en pilote automatique et on lisait des poèmes. On avait une autre vision du monde, quoi. Le monde venait à nous dès qu'on ouvrait les fenêtres. On ouvrait les regards, on ouvrait les vannes, on ouvrait tout.
Ah ouais, on ouvrait tout, on ouvrait les fenêtres.
Les cœurs.
Viens dans ta gueule, d'ailleurs, hein. J'ouvre la fenêtre, bam, je te défonce la gueule, au passage. Non, mais oh, c'était une époque incroyable, hein. Vous êtes vraiment pas nés au bon moment, quoi. Là, c'est un petit peu bouché, là, en termes d'horizon. Mais on vous repasse le flambeau, hein, les petits jeunes, là. À vous de jouer. Ils sont un peu mous du cul, ces jeunes d'aujourd'hui, non? Non, mais ils sont sympathiques, mais ils sont pas comme nous, hein. Non, à notre époque, c'était vraiment. Allez, à vous de jouer, là. Qu'est-ce que tu veux, nous? On est vieux, hein. Puis on va surtout pas lâcher nos super postes, super bien payés. Super, je vous encule, hein, puis on va continuer à construire des duty free, puis des centres-villes de merde qui ont tous la même gueule pour rembourser notre petite maison à l'île de Ré, hein, camarade? Non, mais parce que. Oh, attends, ce qui compte, c'est de rester debout, le poing levé, hein, puis ratada là, hein! Comme à l'époque! Ton refus de vieillir, Vincent, est obscène.
Ah, mais je vois pas le rapport, là.
Vous me faites penser à Michael Jackson, là, hein, tous les deux. Michael Jackson!
Mais Angèle, calme-toi!
Vous nous avez bien bouffé, hein? C'était bon manger ses enfants? C'était bon? Ouais, c'est ça. Et ben, demandez-vous pourquoi la figure centrale de notre génération, c'est le pédophile! Oui, s'il y a un rapport! Vous êtes des ogres!
Alors voilà un film savamment énervé, très excité et très excitant. Il pose de nombreuses questions, notamment celle-ci. Vous, Judith Davis, vous interprétez le personnage principal, Angèle, celle qu'on vient d'entendre et qui se révolte contre la situation dont elle hérite, tout simplement parce qu'elle a 35 ans, qu'elle trouve pas de boulot et il faudrait qu'elle s'en contente et qu'elle soit et qu'elle applaudisse à son absence de possibilité de s'accomplir elle-même dans la vie. Est-ce que vous avez l'impression que personne ne vous accueillait à l'âge que vous avez aujourd'hui? Maintenant, c'est fini parce que vous êtes reconnue avec ce premier film, ce collectif et tout ça. Mais il y a cette sensation que finalement, vous arrivez dans un monde où vous avez pas droit de citer, quoi.
Reconnu, je sais pas, parce que le film a été très très difficile à monter, voire, donc il a fallu absolument se battre. Bon, après c'est toute la question du cinéma, la question d'un premier film, la question de venir du théâtre qui est quand même pas du tout aidant quand on essaie de monter un film. Enfin bon, voilà, plein de questions comme ça. Mais non, le monde n'est pas accueillant. Non, ça c'est sûr que je pense qu'on a mis l'accueil de côté et l'hospitalité il y a un bon bout de temps. Hein, je pense qu'on le voit tous les jours. Après, le film, c'est une des portes d'entrée. La question de l'héritage de 68 et la difficulté... À un moment, Angèle dit, en parlant de son père, qu'elle met sur un piédestal de manière un peu cocasse, parce que c'est too much, elle dit, bah lui au moins, il a succombé ni au confort, ni au désespoir. comme si dans sa vision des choses, parce qu'Angèle a quelque chose d'anachronique, Angèle se rêve, paradoxalement elle souffre de se faire virer par ses patrons de gauche, comme elle le dit après à sa sœur dans la cuisine, mais paradoxalement je pense qu'elle aurait rêvé d'être jeune plus tôt et d'être cette héritière qui reprend le flambeau et qui elle aussi peut s'engager dans un engagement politique qui est à portée de main d'épouser la cause comme on l'épousait à l'époque, sauf qu'effectivement entre temps, ce que j'ai dit tout à l'heure, le politique a explosé, a quitté les idéologies et on est dans une multiplication des fronts comme ça d'engagement possible très perturbant en fait. Peut-être moins pour les gens plus jeunes, mais en tout cas pour nous qui sommes la fin de la queue de comète de cet héritage-là, il y a eu longtemps quelque chose de perturbant et voire de complexant.
Ben, je voudrais qu'on termine sur l'amour, cette émission, parce que Julie Deliquet, dans votre mise en scène de Fanny Alexandre à la Comédie Française, on sent bien que la clôture de la pièce se fait de manière sereine, alors que nous, spectateurs, nous avons traversé différents états de tension à l'intérieur de cette famille très disparate. Et l'amour va venir pour réconcilier les êtres. Et cet amour, c'est pas seulement l'amour physique, c'est pas l'amour sensuel, pas seulement, il existe bel et bien celui-là, mais c'est l'amour avec le théâtre et l'amour du théâtre.
Oui, c'est... Bergman monte une tragédie humaine terrible avec un héros pervers, un monstre, et tout d'un coup il pense avec un A cette histoire grâce à un retour au théâtre, grâce à un retour à la troupe de théâtre, à la réouverture d'un théâtre, et en invoquant même un auteur de théâtre que Bergman affectionnait particulièrement, qui est Strindberg, et il finit avec les premiers mots de la préface du Songe de Strindberg. Et effectivement, on a dans ce montage-là une brutalité totale 10 minutes avant la fin et une sorte d'épilogue qui finalement redonne aussi la conscience de l'importance de raconter des histoires au théâtre et à sa force que ce petit monde révèle du grand monde. Et c'est le mot de la fin de Bergman.
Et vous, Judith Davis, chère Angèle, et ben vous qui êtes l'héroïne de ce premier film qui s'intitule « Tout ce qu'il me reste de la Révolution », eh bien la fin se termine aussi par l'amour. Elle a du mal, Angèle, à croire que l'amour existe. Elle a du mal à considérer que le garçon qui lui fait des déclarations, il faut qu'il danse, il faut qu'il fasse des choses extraordinaires pour qu'elle commence à le regarder et qu'elle puisse comprendre que lui, oui, vraiment, il est amoureux, mais que elle aussi peut-être. Mais ça se termine plutôt pas mal, donc ça veut dire que votre génération croit encore à l'amour. C'est peut-être ça, la révolution.
Oui. Je pense que ce qui pourrait être... Enfin, effectivement, Angèle est empêchée, parce que dans cette espèce de lignée de l'engagement des années 70, il y a peut-être une difficulté à incarner, peut-être un mépris du corps, peut-être... moi, j'ai vraiment hérité de tout et en deçà de l'engagement politique. La famille, l'amour, le rapport aux autres, une humanité proche, un dîner entre amis. Et je pense que Angèle doit, pour comprendre peut-être mieux son époque, doit comprendre que l'engagement amoureux est peut-être pas contradictoire avec l'engagement politique et que les deux choses sont peut-être les deux faces de la même pièce. Donc c'est à la fois une fin sur l'amour et une fin sur un humanisme qui peut et qui va, j'espère, redonner du politique.
Eh bien, vive les filles et bravo les filles. Je rappelle, Julie Deliquet, que votre mise en scène de Fanny Alexandre a commencé au théâtre de la Comédie Française, salle Richelieu, et qui va être joué en alternance jusqu'au 16 juin. Quel oui. Gros bateau à mener. Et bravo Julie Deliquet. Quant à vous, Judith Davis, je rappelle que votre film est sorti sur les écrans la semaine dernière et qu'il a l'air de bien commencer. Et on s'en réjouit. Merci infiniment. Bravo les filles. Et on va terminer l'émission par un garçon, mais un garçon qu'on aime infiniment et qui nous aime aussi. Il s'appelle Étienne Daho.
Le soir déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois. dans la pénombre. Personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux. Cet éclat vénéneux les perd en silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux. Cet éclair dangereux des héros silencieux.
C'était L'Étincelle, merci à Étienne Dao, merci aussi à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royenne, Sophie Dazard, Antoine Joubert, à Lilian Alloum qui a réalisé cette émission, à Alexandre Chenet qui était à la technique ce soir, et puis cher Mishka, le Metallica, c'est du Doom ce soir, du Doom Metallica.
Mais quelle auditrice attentive.
Bah je danse moi quand je vous écoute, le Doom Metallica, j'aime bien.
Si je vous dis hardcore, alors qu'est-ce que vous comprenez?
Bah qu'il faut se bouger plus et que c'est plus joyeux que le Doom Metallica.
Excellente réponse.
Voilà, donc je vais m'y mettre aussi, j'apprends tout avec vous.
C'est gentil.